Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour, je m'appelle Denis Chagnon et je vous souhaite la bienvenue à Marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez bien. Cette semaine, je vous propose une exploration du lien profond de la marche avec la compassion en compagnie de la naturopathe et thérapeute Christine Angelard. Lors de sa première visite à Marcher vers le bien-être, Christine nous avait parlé de son évolution personnelle de la médecine générale vers une vision globale de l'humain où tout est interrelié, corps physique, émotion et spiritualité. Dans un nouvel ouvrage en finition intitulé « La compassion, chemin d'espérance, chemin de vie », Christine partage le fruit de ses recherches et de son expérience personnelle et professionnelle par rapport à la marche et à la compassion. Elle explique notamment comment la marche peut favoriser la pratique de la compassion envers les humains dans notre cheminement de vie. En deuxième partie de l'émission, Michel Cousinat-Baudet se penche, dans sa chronique « Le corps en marche », sur un sujet étroitement lié aux propos de Christine, soit la démarche et la posture. À toutes et à tous, bonne écoute et bonne réflexion. Alors, Christine Angelard, bienvenue, et ce, pour la deuxième fois, à Marcher vers le bien-être.
Bonjour, et merci de m'accueillir, surtout.
Alors, Christine, lors de votre première visite, vous nous avez proposé une belle manière de se remettre en marche, axée sur un de vos livres intitulé « Va vers toi-même ». On peut d'ailleurs écouter cette entrevue sur le site jemarchepartout.com grâce au moteur de recherche qui s'y trouve. Il suffit de taper « Christine Angelard ». Donc, vous nous parlez aujourd'hui de marche et de compassion et de votre nouvel ouvrage en préparation intitulé pour le moment « La compassion, chemin d'espérance, chemin de vie ». Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à amorcer cette réflexion sur la compassion?
Eh bien, je vous dirais, c'est un petit peu comme pour tous mes ouvrages précédents, ce sont mes patients qui me boostent. Ce sont mes patients qui m'ont parlé, qui m'ont dit « Mais vous, docteur, de toute façon, en tant que médecin, c'est normal, vous avez de l'empathie, vous avez de la compassion. » Et ça a amené une réflexion et surtout des recherches. Et de là est né cet ouvrage en finition, si j'ose dire. Qu'est-ce que la compassion ? La compassion, c'est quelque chose qu'on a en nous, mais que nous ne savons pas que nous avons. C'est l'énergie du cœur qui se met en œuvre, qui se met en marche, c'est le cas de le dire. Oui. C'est l'énergie du cœur qui prend le relais sur le mental. C'est le cœur à l'œuvre. Et donc, il n'y a pas besoin d'être médecin, heureusement, pour vivre de la compassion, expérimenter la compassion. Monsieur, madame, tout le monde sont tout à fait doués de compassion. Et souvent, on le fait, mais on n'en a pas tout à fait conscience. Et grâce à ces interrogations, à ces questionnements, ben j'ai fouillé un petit peu. Et je suis tombée sur les travaux de Tania Singer, ou Singer, je ne sais pas comment on prononce, qui fait le distinguo entre compassion et empathie.
Très important.
Et ça, c'est capital. Parce que la compassion, j'y suis tombée comme tout le monde, par mon milieu familial, par certains de mes patrons, bien sûr, mais de mes patrons en médecine. On ne nous l'apprend pas. À l'université, on ne nous parle pas de compassion. On nous parle de science, on nous parle d'anatomie, on nous parle de biologie, on nous parle de neurologie, de beaucoup de choses, de physique. Mais on la vit, la compassion. Elle est à l'œuvre. Parfois, elle ne l'est pas, et ça fait tout, et on voit la différence. Et donc, j'étais tombée dedans quand j'étais enfant, quand j'étais petite. Enfin, je veux dire dans mon milieu, et il y a pas que dans mon milieu, mais je suis tombée dedans. C'est en relisant en tant qu'adulte et plus qu'une adulte, en tant que senior, en relisant les travaux de Madame Singer, là, j'ai trouvé ça fascinant parce que la compassion, c'est souffrir avec, cum patere, c'est être à côté. Je marche à côté de toi. Mon patient, je vais t'aider à traverser, mais je ne souffre pas à ta place, je ne suis pas dans. Empathie, c'est dans. Et alors, ce qui est intéressant, en dehors des racines étymologiques, c'est que ça ne fait pas du tout appel au même centre neurologique. La compassion vient réveiller l'énergie du cœur, vient solliciter les zones du cerveau qui sont en lien avec l'amour. L'amour d'un père ou d'une mère pour son enfant, le bien-être, l'amour. Alors que l'empathie vient stimuler les zones de stress et de survie. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir. Et lorsqu'on parle de blessure de compassion, eh bien, on se trompe. C'est blessure d'empathie. Bon, ça fait un petit peu savant de Molière, là, mais c'est non, ça.
C'est quand même important, la distinction.
Et ça m'a permis de comprendre pourquoi, dans certaines consultations qui, au départ, s'annonçaient difficiles, compliquées, où j'étais fatiguée, où, voilà, j'aurais préféré que fermer le bureau à 5 heures, et puis, en fait, je vais le fermer à 19 heures. Alors, je commence avec mon petit mental et ma petite personnalité. Et dès que le patient arrive, je suis dans mon rôle de thérapeute. Et là, j'ai une énergie qui me vient d'ailleurs et qui me verticalise, comme je dis, qui me remet droite et qui me permet de faire correctement mon métier, c'est-à-dire d'accompagner l'autre pour qu'il traverse ce qu'il a traversé.
Le mot-clé, accompagnement.
C'est ça. Compassion, être à côté.
Accompagnement.
Accompagnement. Voilà, oui. Je marche à côté de toi, donc... On est toujours dans la marche.
Voilà, oui.
Réel ou symbolique.
Voilà. Le cheminement que vous avez entrepris pour arriver à cette constatation, à cette conception de la compassion, ça s'est déroulé comment?
Ben, ça s'est déroulé à l'université déjà, ça s'est déroulé même avant. Moi je viens d'un milieu moyen, fonctionnaire moyen, mon papa, mais je suis une petite fille de paysan aussi, mes grands-parents étaient paysans, ce qui m'a donné le bonheur de passer des vacances à la campagne. Et là, elle est à l'œuvre, la compassion, on donne un coup de main à celui qui souffre, c'était naturel. Bon, puis ensuite j'arrive en médecine. Et là, j'ai la chance et la grâce, les deux, je pense, d'avoir eu trois, notamment, professeurs sur un cursus de 7 ans qui étaient des humanistes, qui étaient d'excellents médecins, bien évidemment, parce qu'ils étaient déjà chefs de service, donc c'est quand même leur niveau de professionnalisme n'était plus à mettre en doute, mais c'était aussi des humanistes.
Oui.
Et donc de parler avec compassion, de toucher avec compassion, de regarder. Et en fait, on est tombé dedans. Jamais je me suis dit « Ah, je suis en train de perfectionner ma compassion ». Je veux dire, ça s'est fait petit à petit.
Naturellement.
Naturellement.
Oui.
Puis ils m'ont vécu, hein, parce que je suis comme tout le monde. J'ai vécu des choses plus ou moins faciles et j'ai été accompagnée là-dedans aussi.
Et vous avez étudié, en fait, les religions,
et
les
j'ai étudié
philosophies
la symbolique
du
corps humain avec Madame de Souzenel, qui vient de disparaître, malheureusement. C'était une personne hors norme. Qui m'a appris les racines hébraïques, je ne parle malheureusement pas hébreu, mais qui m'a appris les racines hébraïques, qui nous a appris cette communion que l'on peut retrouver dans les grandes traditions, que ce soit le judaïsme, le christianisme, l'islam, etc., et même le bouddhisme. Et là, effectivement, je suis profondément spirituelle, mais très peu dogmatique. Donc, je me suis intéressée un petit peu à tout.
Mm-hmm.
Enfin, à tout, oui. Avec une préférence, j'ai quand même tracé mon sillon dans la chrétienté. Mais je me suis intéressée avec... j'ai notamment participé à quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé il y a plus de 20 ans, qui étaient des assises interreligieuses dans le sud de la France, avec des moines bouddhistes, des moines orthodoxes, un imam et un rabbin. Ça a été un moment extraordinaire.
Une révélation. Là.
Oui, absolument. Et donc, effectivement, dans le bouddhisme, on trouve la compassion est un des piliers du bouddhisme, compassion et sagesse. Dans la tradition juive, la compassion, le mot... Alors, je parle mal hébreu, hein, je suis désolée, je me demande pardon d'avance. Le mot compassion exact, c'est « ramanout », qui, en fait, vient... La racine de ce mot-là veut dire « entraille », ce qui signifie bien que ça vient de
ça
l'intérieur. Ça vient pas du mental, ça vient du ventre, ça vient des tripes. Ou du cœur, si on veut, mais enfin, des tripes aussi. On est pris aux entrailles. Puis dans le christianisme, on retrouve la même chose. On est pris aux entrailles, là. Donc, tout d'un coup, le bon samaritain, là, tout d'un coup, il y va, il voit quelqu'un qui est complètement blessé, à demi-mort au bord de la route. il y va. Et dans l'islam, c'est un des cinq piliers aussi de l'islam, où le, on se dirait, on, je veux pas dire de bêtises, mais c'est soit miséricordieux. On parle de miséricorde et de compassion. Souvent, les mots sont un petit peu interchangés. Et soit miséricordieux, toi, sur terre, pour que le Très-Haut, qui est miséricordieux, soit miséricordieux avec toi. Donc, on le trouve dans toutes les traditions, ce qui est quelque part rassurant.
Donc, de votre conception, elle est universelle, si je puis dire. Elle embrasse plusieurs religions et philosophies.
Heureusement. Heureusement. La compassion dépasse... Vous savez, la spiritualité dépasse les dogmes. Donc, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit juif, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit athée, on peut, si on a le cœur à l'œuvre... vivre cette compassion-là. Oui, je l'ai vécu dans mon histoire familiale, je l'ai vécu en étudiant, ça m'a réconforté, si vous voulez. Et c'est mes médecins humanistes qui me disaient « tu t'assois au lit du patient et tu écoutes ce qu'il a à te dire ». Parce que vous savez, nous, quand on arrive jeune médecin avec la blouse blanche, on sait tout. On sait bien sûr que le patient, il connaît rien. Je mets des guillemets, hein.
Oui.
Des gros guillemets. Et on arrive et on va tout savoir et on va régler le truc, là. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe.
Oui.
S'il n'y a pas cette... Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres ouvrages. S'il n'y a pas cette qualité d'attention, de présence et d'écoute, on loupe notre consultation. Et quels que soient les remèdes qu'on va apporter.
Et surtout, en médecine, il faut ce détachement. On accompagne vraiment.
Absolument.
D'où
sinon,
la distinction avec l'empathie, là, parce qu'autrement...
Sinon, on se noie. Mais on se noie au début. Attendez, on y passe tous. L'empathie, elle fait... L'empathie, c'est le début du mouvement vers l'autre. Et ensuite, il faut faire ce pas en arrière. Moi, ça m'arrive assez souvent de dire à mes patients qui me racontent des situations difficiles, émotionnelles, familiales, enfin, physiques aussi. Et je leur dis, bon, ou je me souviens d'une personne qui me dit, mais moi, de toute façon, je vais lutter contre le cancer, je vais m'en sortir parce que je vais lutter. Je dis, non, vous n'allez pas lutter parce que si vous luttez, vous épuisez vos surrénales. Mais on va essayer de le traverser ensemble. Voilà. Et si je me noie avec vous, ça va sauver personne. C'est-à-dire, si je suis triste, moi je me souviens, là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu quelqu'un qui était vraiment en dépression pour quelque chose de difficile qu'elle vivait. Et effectivement, c'est difficile. Donc je l'écoute et puis je vais voir comment, avec des produits naturels, je peux accompagner son traitement qu'elle a par ailleurs. Et je lui dis... Et puis je voyais, parce que vous avez des patients qui essaient de vous tirer aussi, comme ça, dans leur souffrance.
Et ce qui est normal.
Et là, mais physiquement même, je recule dans ma chaise et je leur dis... écoutez, là, moi, je vais pas pleurer avec vous, parce que si je pleure avec vous, on va se noyer tous les deux. Voilà. C'est quelque chose auquel il faut faire attention, parce qu'on est très vite embarqué là-dedans.
Et vous avez aussi étudié la médecine traditionnelle chinoise et qui rejoint un peu le même concept. C'est ça.
La médecine traditionnelle chinoise, pour moi, c'est la base, puisque dans la médecine traditionnelle chinoise, on nous parle du fameux cœur empereur. Et ce cœur empereur, c'est lui le témoin du pâle reflet de l'énergie céleste qui est en chacun de nous. C'est-à-dire que pour la tradition chinoise, en chaque humain, on a un reflet de l'énergie céleste qui se trouve dans le cœur. Et lorsque ce cœur est à l'œuvre, le mental s'apaise et la roue de la vie tourne dans le bon sens.
Et comme on dit, rien n'est plus puissant que la douceur.
Rien n'est plus puissant que la douceur. Et puis vous savez, je ne sais plus qui a dit ça, mais ce n'est pas grave. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Le mal n'est pas l'inverse du bien. L'obscurité n'est pas l'inverse de la lumière. Le mal, c'est pas assez de bien. L'obscurité, c'est pas assez de lumière. Donc c'est pas... Alors c'est facile à dire quand on est dans un studio où tout va bien, et je conçois que des gens qui vivent des drames actuellement dans le monde, et Dieu sait s'il y en a, ça doit pas être facile. Mais souvent, ce sont ceux-là qui sont les plus doués pour la compassion, parce qu'ils sentent l'urgence de vivre, et quand il y a l'urgence de vivre, la compassion, elle est là.
Oui.
Mais... oui, le mal, c'est l'absence de bien, donc il faut mettre un peu plus de bien.
Vous parlez de monde. Pourquoi avons-nous tant besoin de compassion aujourd'hui?
À ma foi, pour pas mal de raisons. Parce que le monde actuellement, c'est pas un scoop, là, ce que je vais vous dire, mais il est en plein bouleversement. Tout le monde s'en rend compte. Et on arrive surtout à une étape dans l'évolution où on rejette le Superman et la Superwoman. Là, l'homme ou la femme qui est capable de tout gérer. C'est-à-dire le mot aussi, je gère. Alors, il gère tout. Même les gamins qui disent, t'inquiète pas, je gère à l'adolescence. Non, non, on gère pas grand-chose. Donc, le rejet de ce que j'appelle Superman ou Superwoman. La performance n'est plus... On se rend compte que ce n'est plus la performance qui est importante, mais l'équilibre. De trouver un équilibre de vie. Donc, et on le voit dans la quantité de burn-out, la quantité d'antidépresseurs qui sont prescrits. Les gens qui arrivent au bout de leur course, ou un patient qui m'avait dit, à force de me dépasser, je me suis perdu.
Voilà. Oh, belle image.
C'était magnifique, je lui ai emprunté. Donc le rejet ou le ralentissement, ce que j'appelle de la société de performance. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester assis sur sa chaise sans rien faire, mais trouver un équilibre.
Et la marche est un équilibre.
Et comme par hasard,
un antidote.
Marche, c'est exactement. C'est ça, ouais. Mais quand j'étais jeune étudiante en train de préparer mon concours en médecine, là où il y avait 2000 places et de 2000 candidats et 200 places, je travaillais comme tous les étudiants, c'est-à-dire énormément, et tout d'un coup, j'en pouvais plus, je me levais et j'allais marcher.
Ouais.
Parce que la marche me remettait les idées en place, c'est ce qu'on disait, nos anciens, la grand-mère disait ça.
Depuis longtemps.
Là, va marcher, tu vas te remettre les idées en place, mais c'est beaucoup plus juste que ce qu'on pense.
Vous parlez du réveil des peurs.
Et oui, parce que là, c'est ça le problème, c'est que l'épidémie mondiale qui est en cours depuis quelques années, c'est l'épidémie de la peur. Alors on l'a vu ces dernières années, mais ça a toujours été plus ou moins d'actualité. Mais là, le réveil des peurs, peur des virus, peur de l'autre, peur du climat qui ne va pas bien.
Peur de la fin du monde.
Peur de la fin du monde, voilà. Le réveil des peurs est très très actif et lorsque nous sommes dans les peurs, nous épuisons nos surrénales et à ce moment-là, on se coupe de l'énergie du cœur. Donc c'est ça qui est terrible. Et ça, on le voit très bien en médecine chinoise. Le réveil, c'est là où, dans l'empathie, on va surstimuler les surrénales et on rentre dans la peur et la souffrance. Et donc on s'épuise. Alors que dans la compassion, on va rentrer dans un autre souffle et on se redresse. Et en marchant, on se redresse.
Mmh, donc, Et on le voit aujourd'hui, de nos jours, et ça fait quelques années quand même, ce besoin de spiritualité.
Oui. Parce qu'on a tout jeté. On a jeté le bébé, l'eau du bain, la baignoire et la salle de bain, même, si j'ose dire. Et on se trouve devant un vide abyssal. Et ça a été comblé par soit la société de consommation, c'est-à-dire je vais avoir 3 voitures, 2 maisons, toutes sortes de gadgets, le dernier téléphone qui fait je ne sais plus quoi d'ailleurs. Et puis, ou alors, à l'opposé, on est allé vers ce que j'appelle un petit peu le New Age, c'est-à-dire tout le monde il est beau, tout le monde est gentil et on aime tout le monde. Et là, on n'a pas de racines. Dans la société de consommation, on s'aperçoit que c'est un puits sans fond. Donc on se retrouve, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de continuer mon métier à l'âge que j'ai? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin? Qu'est-ce qui m'anime? Et le mot animer, c'est quand même en lien avec l'âme.
L'âme, oui.
Et effectivement, on s'est un peu perdu et c'est toujours dans les crises qu'on avance. Mm-hmm. Donc cette crise dans laquelle on est actuellement depuis plusieurs années... Les astrologues vont nous expliquer que je ne sais plus qui passe sur je ne sais pas quoi, mais on est en plein dedans. Et cette crise, elle est nécessaire. Cette faille, c'est peut-être dans laquelle nous sommes. C'est peut-être le chemin pour retrouver cette intériorité.
Mmh, oui.
Parce que qui dit spiritualité dit intériorité. Mmh. Moi, je dis l'au-delà est avant tout un au-dedans.
Oh, vous répétez.
L'au-delà est avant tout un au-dedans.
Intéressant.
Mais oui, on est tous allés chercher à l'extérieur.
C'est ça,
tous.
Oui. Alors que la réponse...
Et toutes les grandes traditions le disent.
Oui.
Toutes les traditions le disent de revenir à l'intérieur.
Dans votre ouvrage, justement, vous parlez de retrouver ce que vous appelez la joie originelle.
Ah oui, ça, j'aime bien parler de ça. La joie originelle parce que par opposition au péché.
Oui.
Je crois que c'est Sœur Emmanuelle qui disait... Oui, c'est Sœur Emmanuelle qui disait que la joie, c'était le début de la spiritualité. Parce que la joie est originelle. Regardez un bébé qui vient de naître, ou un bébé de quelques mois. Et c'est magnifique. C'est l'énergie du cœur qui est la première en fonction. Le cœur in utero, parce que nos poumons, ils se déplissent lorsque le bébé naît. L'énergie respiratoire, c'est lorsque le bébé naît. Mais l'énergie du cœur, elle se met à battre à 3 semaines de vie in utero. 3 semaines de vie in utero, ce qui va former le système nerveux, que l'on appelle le tube neural, n'est pas encore formé. Mmh. Ou à peine, il va guébauche. Qu'est-ce qui allume le cœur ? Bon, ça, on ne va peut-être pas dire la solution aujourd'hui. Il n'y a pas une solution, mais le cœur est là. Le pâle reflet de l'énergie céleste, comme dit la médecine chinoise. Et ce cœur, c'est la joie, c'est l'amour. C'est la joie apaisée, c'est la joie tranquille. Ce n'est pas la surexcitation, ce n'est pas se forcer à rire. Et cette joie, elle est originelle. Et cette joie, on l'a tous en nous. Malheureusement, entre notre vécu, la société dans laquelle on atterrit,
l'environnement,
etc. On a toutes sortes de coquilles autour qui sont venues fossiliser cette joie. Et tout le travail du thérapeute et tout notre travail de vie, c'est de faire sauter ces mémoires. Les mémoires transgénérationnelles, les mémoires de vie, le climat, si je me trouve sur la bande de Gaza ou en Ukraine actuellement, c'est sûr que ça va être difficile de trouver la joie originelle. Et encore, c'est même pas sûr. Parce que justement, ce que disait Sœur Emmanuel, qui est cette sœur qui est allée faire du bénévolat en Inde et un peu partout chez les chiffonniers d'Emmaüs, entre autres, qui disait, en Égypte aussi, qui disait que ces enfants et ces gens qui n'ont rien ont la joie dans les yeux. Alors que la personne qui a 3 voitures, 2 maisons, 2 chevaux et je ne sais plus quoi, vit mal, souvent. Donc, cette joie, c'est la je crois qu'on est dans une crise actuellement, économique, sociale, politique, médicale, tout ce qu'on veut, là, tous les paramètres y sont, qui va nous faire craquer ces espèces de gangs qui nous empêchent d'atteindre cette joie originelle.
Et on parlait de La Cité de la Joie, ce fameux roman, en fait, histoire, si on veut, un film et tout. C'est un peu ce que vous dites, là. C'est La Cité de la Joie parmi la pauvreté.
Oui.
Voilà.
Oui.
Oui. Est-ce qu'on peut résumer les bienfaits de la compassion?
Vous résumez, oui. Il y en a autant que d'individus, mais les bienfaits de la compassion, je dirais, en une phrase, la compassion nous rend meilleurs. La compassion nous redresse. Nous fait mettre des hommes et des femmes debout, alors que la peur nous horizontalise.
Ouais.
Et je suis la première.
Nous aplatis,
et je suis la première à avoir eu, et encore il n'y a pas si longtemps de ça, des peurs terribles suite à des problèmes de bêtement d'inondation. Enfin, avec le recul maintenant, on dit bêtement, mais sur le moment. Donc, je ne critique pas la personne qui a peur. J'ai peur parfois. J'ai eu peur et j'espère pas trop avoir peur bientôt. Mais la peur fait partie de la vie. Mais la compassion justement nous redresse, nous redonne notre véritable nature. On parle de véritable nature aussi et notre dimension sacrée. Sacré, c'est tout homme est sacré, même celui qui n'appartient à aucune tradition religieuse. La religion est un des paramètres du sacré. Mais le sacré appartient à l'humain.
Christine, nous prenons une courte pause musicale et on parle ensuite de, en fait, comment s'exerce la compassion. Nous sommes en compagnie de Christine Angelard. Nous parlons de marche et de compassion. Et c'est peut-être ici que l'on pourrait faire le lien avec la marche, justement. La marche est un excellent moyen ou moment de pratiquer la compassion, un peu comme on disait tout à l'heure le bon samaritain, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr. C'est intéressant d'ailleurs que j'ai écrit un livre sur la marche et puis là je suis en train d'en finir un sur la compassion. Et ça se rejoint beaucoup plus qu'on le pense. Et alors que quand je les ai faits, je ne voyais pas forcément le lien, mais maintenant je le vois très très bien puisque nous sommes de toute façon des êtres de relation par essence et des êtres en mouvement. Mmh. Et dans la compassion, il y a cette notion d'élan, d'aller vers. Et lorsque nous marchons, surtout, nous mettons un petit peu au repos notre mental, qui a tendance à tout vouloir gérer avec le peu qu'il connaît, même si on est persuadé d'avoir un mental très fort. On connaît peu de choses par rapport à tout ce que la vie peut nous offrir. Donc, pendant la marche, je mets en mouvement mon corps et je suis plus en, comment dire, d'abord je suis verticale par définition, et je suis plus en attention avec mon cœur. Lorsque je marche, j'ai tous les sens en principe en éveil. Je regarde, j'écoute, je ressens. Je peux aller toucher des arbres. Je suis en mouvement. Donc je retrouve ma dimension humaine par le corps. Et retrouvant ma dimension humaine par le corps, j'accède à ma dimension spirituelle par le cœur. C'est par la marche que nous viennent les meilleures idées. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre. Et j'en ai un autre qui mijote, c'est toujours en marchant. Parce que je fais du bien à mon corps, comme dirait, ça c'est un proverbe amérindien, je fais du bien à mon corps pour que mon âme ait envie d'y rester. C'est pas de moi. Hein.
C'est joli
oui,
quand
c'est un proverbe amérindien.
Très très beau.
Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Donc oui, il y a un parallèle entre la marche et la compassion. J'abandonne un peu tout ce que je sais, tout ce que je prévois, tout ce que j'ai envie de faire. Je vais le faire parce qu'il ne s'agit pas de vivre sans rationalité. Mais je mets de l'air. Je mets de l'air dans mon cerveau, et mettant de l'air, si je ne suis pas dans mon cerveau, mais dans mon énergie, dans mon corps énergétique, et mettant de l'air, comme par hasard, j'ai des idées qui viennent, mais des idées qui ne viennent pas de mon mental, des idées qui viennent de mon cœur. Mmh. Ce qu'on appelle ouais. L'inspiration. C'est joli comme mot, l'inspiration. Ouais. Parce que l'inspiration, ça vient de...
Ouh, inspirer,
souffle, oui. Voilà. Ouais. Oui, mais c'est le lien qui se passe entre l'énergie du cœur et l'énergie du mental. Là, c'est l'inspiration, c'est ce qui nous vient du cœur, qui va alimenter notre mental, qui va ensuite l'utiliser de la meilleure façon, en tout cas on l'espère. Voilà, donc oui, il y a un lien pour moi évident maintenant entre compassion et marche. Oui.
Vous parlez d'un double mouvement.
Oui, parce qu'il y a à la fois l'élan, on est projeté vers ou à faire quelque chose, et en même temps il y a abandon. Parce que abandon de ce que je sais, abandon des conditions. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est Kennedy aussi. Hein,
bon. Oui.
C'est-à-dire que j'ai les moyens d'aujourd'hui avec ce que voilà, j'ai ma trousse à outils. Et il me semble que ma trousse à outils est limitée pour venir en aide à monsieur ou madame Tartampion. Ils s'appellent tous Tartampion, mes patients. mais j'y vais quand même.
Oui.
J'y vais quand même. Parce que ce que moi, tête ne sait pas, dans ce mouvement, dans cet élan, dans ce pas en avant, je redresse quelque chose se redresse en moi, pas moi, quelque chose se redresse en moi et ouvre une porte vers un inconnu qui peut apporter des commencements de solutions, voire des solutions. Et ça aussi, lorsque l'on marche, on part pour une destination, mais ben, vous le savez bien, hein, on ne fait jamais exactement ce qu'on avait prévu de faire. Hein.
Oui.
On se met en marche vers un inconnu. Alors, on va à tel endroit, mais peut-être qu'on va passer par un autre chemin, on va rencontrer quelqu'un, etc. Et c'est ce double mouvement qu'on peut retrouver dans la compassion et dans la marche, je trouve.
Et ce que je trouve intéressant, vous parlez d'accueillir ce qui est.
Tout simplement. Et ça, c'est difficile.
Très difficile.
Ça, c'est très difficile, encore plus pour un médecin ou un thérapeute. Enfin, parce ouais. que nous, on est formés à trouver des solutions. Nous, on sait. Mon Dieu, que c'est pas tout à fait comme ça. Donc, accueillir ce qui est. Et lorsque quelqu'un, et je suis la première à me voir aller là-dedans, lorsque quelqu'un nous parle de sa problématique, la première chose, c'est de l'écouter. Et malheureusement, les trois quarts du temps, quand il parle, on essaie déjà de trouver des solutions. Et c'est pas ça. Si on est juste une oreille, si on est juste une grande oreille, déjà il y a un tiers du travail qui est fait, parce que l'autre a pu déposer son mal-être, sa souffrance, il s'est senti accueilli, il s'est senti écouté. Ça fait toute une différence.
Et ça, on le fait tous.
On fait tous.
Pas besoin d'être médecin pour...
Mais on n'a pas besoin d'être médecin. Mais c'est ouais. plus dur chez les médecins, parce que les médecins, ils ont les solutions, officiellement. Ouais. On vient nous voir parce qu'on a la solution. Non, on n'a pas toujours la solution. Mais bien évidemment, c'est valable pour tout le monde, heureusement.
Et ce que j'aime beaucoup dans votre ouvrage aussi, vous dites, qui dit compassion, dit présence. Et j'aime beaucoup l'expression. La compassion, c'est avant tout répondre
présent. Fiat. Ouais. Ainsi soit-il, Fiat, je suis là.
Ouais. Donc, c'est la réalité, ce qui est, je suis.
Oui, et vous savez bien.
À la réalité.
Exactement, à la réalité. Et dans, dans les moments tragiques, dans les moments difficiles, les mots sont totalement impuissants, inutiles, et on ne parle plus, mais on est là.
Oui.
On est là. La présence, une présence verticale, enfin symboliquement verticale, on n'est pas obligé d'être debout, on peut être assis, mais une vraie présence. Vous savez, il y a des gens qui sont là, mais qui ne sont pas présents.
Oui.
Et la présence, c'est accueillir ses limites, nous, en tant qu'amis, enfants, parents, thérapeutes, tout ce qu'on veut. Face à quelqu'un, c'est d'être simplement là sans rien vouloir. Mmh. Le problème, c'est notre foutue volonté.
Oui.
Si on est juste là, disant, bah, je sais pas, moi je suis là. Si tu as besoin de t'appuyer sur moi, je suis là. Ça fait toute une différence. On a tous vécu des expériences difficiles où la présence d'un ami, d'un conjoint, d'un étranger aussi, qui est là au bon moment, fait toute une différence. La présence, c'est ce qu'on devrait apprendre, ce qu'on commence à apprendre dans certains endroits à l'école, sous forme de séances de méditation, surtout au Danemark. Là, je sais que c'est dans leur cursus scolaire au primaire.
Ah oui?
Apprendre, oui, au Danemark. Ah oui, j'adore le Danemark. C'est un petit pays qui a déjà mis dans son cursus. Déjà, les enfants, je crois que jusqu'à 7 ans, ils jouent. Alors, à des jeux... soi-disant, enfin,
Lego,
voilà, etc. Ils jouent et ils apprennent aussi à jouer ensemble. Et oui, et puis ça se fait, il n'y a pas qu'au Danemark, ça se fait de plus en plus. Même ici, je sais qu'il y a des endroits où on apprend aux jeunes enfants, aux petits enfants, à être juste là.
Mm-hmm. Voilà. Oui. Et ça nous place dans une position de réceptivité.
Et là, on peut accueillir, on accueille surtout l'énergie d'en haut. Parce qu'on laisse la place. Quand on est dans la présence, on est aussi dans un certain vide mental. Enfin, je sais pas que je m'exprime mal là. C'est-à-dire qu'on attend. On est là. On va bien voir. Je suis là. Je vais t'aider.
Oui.
Mais je ne mets pas en route mon cerveau pour élucubrer des solutions. Là, peut-être que l'énergie du cœur...
C'est le cœur, justement.
Va,
oui.
Voilà, c'est pas peut-être, oui. C'est même sûrement, oui. Le cœur va, oui, se mettre à l'heure. Et là, il va se passer le petit miracle ou l'idée géniale, ou etc. Donc, c'est être réceptif à ce qui est maintenant et surtout être réceptif à plus grand que moi en moi et plus grand que l'autre en l'autre qui est en face de moi aussi.
Et on accueille avec, comme vous dites, nos forces et nos fragilités.
Ah, complètement.
Voilà, comme on est.
Comme on est.
Oui.
On n'a pas la solution, on n'est pas Dieu le Père. Hein.
Et on n'en rajoute pas, ni dans le positif, ni dans
le négatif. Ah oui, ça c'est épouvantable d'en rajouter. Non, il ne faut surtout pas en rajouter avec notre mental. Et il y a des pathologies aussi où le patient a tendance à en rajouter avec son mental. Et là, il faut le stopper.
Oui.
Là, il faut le stopper en disant stop, là, c'est déjà assez mal comme ça, c'est pas la peine, ah là là, mon Dieu, il y a des nuages, il va pleuvoir, et s'il pleut, j'ai pas le parapluie, et si j'ai pas le parapluie, je vais me mouiller, et comme ça, on est parti, c'est mortifère.
C'est la catastrophe.
Voilà, c'est un exemple idiot que je donne, mais c'est, vous voyez, le cheminement.
Oui,
quoi.
Le cheminement, c'est ça, oui. Vous dites, lorsque la compassion emprunte le chemin du corps et des sens, elle nous conduit sur un chemin de croissance.
Oui.
Belle image.
Je le crois profondément, mais j'ai rien inventé, vous savez. On ne peut pas, dans notre incarnation, pour le moment, on ne peut pas séparer le corps et le cœur. Ce qu'ont malheureusement essayé de faire encore certains dogmes, et ce que certains encore essaient de faire. Mais le corps et le cœur ne peuvent pas être séparés, c'est là où on retrouve la marche. Mais Hildegard de Bingen, quand même, au XIIe siècle, qui disait « Le corps est plus grand que le cœur, mais les énergies de l'âme dépassent en puissance celles du corps. » Elles s'étendent sur l'orbe de la terre entière.
Hmm.
C'est-à-dire que on ne fait que retrouver notre plein potentiel d'humain. Ce que disait Madame de Souzenel, l'humain n'est pas encore à son potentiel là. On est encore plutôt humanoïde là, mais on s'en va vers l'humain qui se redresse. Lorsque le cœur et le corps sont en harmonie, là,
oui,
on grandit. Là, on devient, on approche de l'humain.
Oui.
On approche,
oui,
de l'humain. Oui, mais c'est jamais, oui, acquis. C'est jamais acquis. C'est pour ça que ces travaux que j'ai menés, cette recherche que j'ai faite pour écrire ce livre, ça m'a passionné. Puis ça m'interpelle aussi, moi, personnellement. Hein.
Oui. Tout à fait, oui, oui, oui. Dans votre cheminement de vie.
De vie,
c'est ça,
absolument.
Oui, 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 oui.
Mm-hmm.
Pour encore plusieurs années, bien
J'espère.
Sûr. Et c'est peut-être là où la marche rejoint vraiment la compassion, c'est dans la pratique, c'est dans les sens.
Dans les sens.
Dans les sens. Et là, j'aimerais qu'on élabore un peu parce que c'est concret. La marche, c'est d'être présent, évidemment, dans le réel et faisant appel à tous ses sens.
À tous ses sens.
Oui.
Et c'est en ça qu'elle, je dirais, qu'elle est l'engrais de la compassion. Ça, le mot n'est pas joli, mais qu'elle est le moteur un petit peu. Enfin, elle va dans le même sens. C'est la petite sœur de la compassion, la marche. Parce que lorsque je marche, j'ai mon regard qui est actif. Je vois autour de moi, dans la compassion va s'exprimer par le regard. Donner une pièce à quelqu'un en lui jetant sans le regarder, il vaut mieux garder la pièce dans le porte-monnaie.
Ah ouais, ouais,
ça n'a rien à voir.
Ouais, ouais, ouais.
Le toucher.
Je reviens au regard, il y a le regard de l'environnement.
Ah, le regard de l'environnement.
La nature. La compassion,
et là,
n'est pas qu'avec l'humain.
Absolument.
Le
regard,
monde qui nous entoure.
Le regard des beautés de la nature et des souffrances aussi de la nature. Et là, on est compatissant et on prend conscience. On grandit. Alors là, on grandit pour de vrai parce qu'on prend conscience de notre rôle de petit humanoïde sur cette planète et de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais bien sûr que la compassion, elle s'exerce vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de l'animal.
Mmh. Oui.
Vis-à-vis du minéral, on partage la planète avec nos cinq sens et ces cinq sens nous permettent de grandir.
On devient plus sensible.
Oui, mais dans le bon sens du terme.
Oui, tout à fait.
Oui, tout à fait. Moi, souvent, je dis, je parle aux arbres, et ce qui est étonnant, enfin, alors, ça surprend les personnes, mais ça les surprend encore plus parce que ils me répondent quand je leur dis qu'ils me répondent. Mais c'est vrai, il y a une véritable, enfin, oui, il y a une communion. Voilà, il y a une communion.
Les arbres vous touchent, les arbres
oui,
vous
toujours.
Envoient quelque chose.
Toujours.
Un petit brin d'énergie.
Toujours. Là, en plus, c'est horrible parce que je suis possessive, je dis mes arbres, alors que c'est plutôt je suis l'humain de l'arbre qui est autour, qui est à côté de chez moi.
Et le toucher est intéressant parce que vous parliez de jeter une pièce de monnaie sans regarder, mais si on peut donner une pièce de monnaie et toucher...
Toucher, oui. Dire bonjour, simplement, donner une tape, mais de mettre la main sur l'épaule, pas une tape condescendante, hein, une main sur le bras, sur l'épaule, bonne journée, mais de le dire avec le cœur, vraiment. Ben, ça fait toute la différence entre quelqu'un qui vous dit bonne journée sans vous regarder et puis quelqu'un qui vous dit bonne journée en vous regardant. Donc c'est... Le toucher, le toucher en médecine chinoise appartient à l'énergie du cœur.
Ah,
quand on parlait du regard, les yeux, le mot hébreu, c'est « aïn ». Je prononce mal encore, excusez-moi. Mais en tout cas, ce que veut dire le mot hébreu, la racine du mot yeux en hébreu, c'est la source. En fait, il faudrait laisser affleurer à notre regard l'énergie d'amour qui nous constitue, c'est-à-dire la source. Parce qu'on ne veut pas l'appeler Dieu, on ne veut pas l'appeler Bouddha, on ne veut pas l'appeler Allah, on parle de la source. Mais cette source, on l'a dans le regard. Vous savez ce qui ne vieillit jamais? Regardez une photo d'un enfant à 3 ans, puis le même à 80 ans, il y a toujours le même regard. Ça ne vieillit pas.
Oui.
Et ça, ce regard, on l'exerce en marchant. On l'exerce, au sens vraiment exercé. Je regarde autour de moi, je vois. Et si je vois la nature, je vais être capable de voir mon semblable aussi.
Et l'odorat?
Ah, l'odorat, oui, ça, c'est magnifique, l'odorat, parce que l'odorat, c'est relié à l'énergie des poumons, le premier cri, dernier souffle, et aussi à tout ce qui est mémoire. Vous savez, une odeur nous ramène, c'est la Madeleine de Proust, hein, une odeur nous ramène des souvenirs immédiatement. Alors les odeurs agréables, c'est merveilleux, les souvenirs agréables, c'est merveilleux. Et parfois, l'odeur, elle n'est pas agréable.
Oui.
Et là, il y a un miracle qui se passe quand on est avec un humain, là, je parle. C'est que ça sent mauvais, ça, c'est clair qu'il n'y a aucun doute là-dessus, mais on ne sent plus. Parce qu'on est porté, on va ressentir quand l'intervention va être terminée. Mais quand on est dans l'accompagnement et dans la nature, on exerce notre odorat. Et effectivement, il va y avoir des odeurs qui vont nous plaire, d'autres qui vont moins nous plaire, mais en marchant, on exerce notre odorat aussi.
Oui, et l'écoute.
L'écoute et la parole. Alors avant de parler, il faut d'abord écouter, ce qui n'est pas toujours évident.
Ce que vous disiez tout à l'heure, il y en a plusieurs qui pensent et qui s'expriment avant d'écouter, vraiment.
L'écoute, et alors ça, la marche pour écouter, c'est merveilleux. On marche avec rien dans les oreilles, hein, les oreilles débouchées pour écouter. Et si j'écoute, c'est Dolto qui disait ça aussi. Dolto, je l'écoutais quand j'avais 15-16 ans à la radio Europe numéro 1. Les anciens vont comprendre. Ça date pas d'hier. Et je savais pas du tout ce que j'allais faire, mais elle me fascinait, cette femme. Et elle disait, je vous prête mes oreilles afin que vous vous entendiez mieux. On peut pas mieux dire. Hein.
Tout est là. Écoutez, marche et compassion. Il y a une autre phrase que j'aime bien dans votre ouvrage. J'accède à plus grand que moi.
Mmh. Oui, le petit moi, il a plein de défauts. Il parle vite. il s'enthousiasme des fois trop vite. Il a plein de défauts, le petit moi. Et tous les petits moi qui sont là, ils ont tous leurs défauts. Et là, tout d'un coup, bah, je sens qu'il y a des moments dans ma vie, il y a des consultations où quand je sors, je me sens meilleur. Oui. C'est pas mon petit moi de personnalité, c'est le grand moi, le soi, disait Jung. Enfin, on peut paraphraser là-dedans. Mais c'est ce qui me rend heureux. C'est ce qui me rend heureux. Et c'est cette joie originelle que je recontacte. Le plus grand que moi en moi, c'est cette parcelle d'énergie divine qui est en moi. Et on l'a tous. On l'a tous.
Et pour terminer, on pourrait dire que la compassion est un cadeau à se faire à soi-même bien avant qu'à autrui. Donc, on doit prendre soin de soi-même.
Pardon. Oui, et d'ailleurs, avant de vouloir aider les autres, il faut d'abord avoir fait un certain travail sur soi. Et si je ne suis pas bien, je vais d'abord m'occuper de moi. Combien de fois j'ai annulé des consultations le 4 août 2020, quand il y a eu l'explosion du port à Beyrouth où ma fille se trouve. Je peux vous dire que j'ai annulé les consultations et ico presto, je n'étais pas en état. Parce que j'avais pas de nouvelles pendant 5 heures avant d'avoir, je suis restée 5 heures sans nouvelles. Bref, donc tant que je suis pas bien, je peux pas accompagner l'autre. Mais la compassion, c'est un effet, c'est une drogue magnifique, parce que si je suis présent, si je suis dans l'écoute face à quelqu'un, qu'on soit thérapeute ou pas thérapeute, je vais initier un mouvement de verticalisation, moi j'appelle ça, où je me redresse et j'aide l'autre à se redresser. Et donc on a bien sûr qu'on fait du bien à l'autre qui se sent épaulé, accompagné surtout. L'autre se sent mieux, mais moi, qu'est-ce que je me sens mieux aussi. Donc vous savez, celui qui donne reçoit beaucoup plus que ce qu'il a donné.
Sur cette belle parole, tout à fait formidable.
Christine, on essaie, on tente. on est en chemin.
Alors, Christine Angelard, je rappelle le titre de votre ouvrage en préparation, La compassion, chemin d'espérance, chemin de vie. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors bonjour Michel et merci de vous joindre à nous pour la 4e saison de Marcher vers le bien-être.
Bonjour Denis.
Alors dites-moi, le titre de votre chronique est « Le corps en marche » et je trouve tout à fait approprié que votre première chronique porte justement sur notre démarche. Alors dites-moi, que veut-on dire au juste par « démarche »
Bien, Denis, la démarche, c'est la façon dont nous marchons. Ce qui peut sembler anodin, mais notre manière de marcher a un impact significatif sur notre corps et sur notre bien-être. Une mauvaise démarche peut entraîner des douleurs chroniques, des déséquilibres posturaux et même, à long terme, des blessures. Il est donc important de prêter attention à notre façon de marcher. Et pourtant, combien d'entre nous le font?
Et j'en entends souvent des exemples.
Donc, mettre un pied devant l'autre, se propulser vers l'avant, c'est le mouvement le plus simple et le plus naturel, un mouvement que nous maîtrisons dès notre plus jeune âge. Bien que la marche soit un geste automatisé, c'est un acte d'une complexité inimaginable, impliquant équilibre, coordination, force, l'activation de centaines de neurones. Et lorsque nous marchons, nous engageons presque chaque muscle et os de notre corps, tous synchronisés dans une séquence extraordinaire de mouvements. Il y a plusieurs facteurs qui vont influencer notre démarche, comme notre posture, la force musculaire, la flexibilité et même notre état émotionnel.
Ah oui?
Oui. Donc, une personne stressée pourrait avoir une démarche plus rigide, un petit peu plus contractée, saccadée, alors qu'une personne détendue aura une démarche plus fluide, plus naturelle.
Alors, notre mode de vie impacte notre démarche, donc?
Oh oui. Nos ancêtres, eux, avaient plus de force, d'équilibre, de souplesse. Nous, on a perdu ça, pas perdu, mais disons que ça se dégrade un peu avec notre mode de vie. À cause des chaussures qui ne sont pas toujours adaptées, là, qui sont plutôt à la mode, mais nos pieds sont coincés à l'intérieur. Les ordinateurs, on le sait, là, le fait d'être penché sur l'ordinateur pour de longues périodes. On est beaucoup assis dans la voiture, sur le canapé. Donc, tout ça, ça va avoir un impact sur la démarche parce que ça passe par la posture.
Est-ce vraiment important, la posture?
Mais c'est sûr que moi, c'est mon dada, la posture, donc je vais dire oui, absolument. Notre posture, en général, va avoir un impact, en fait, sur notre démarche, absolument. Donc, si on est assis trop longtemps, ça va resserrer les muscles des hanches, notre estomac va avoir tendance à s'affaisser, donc on va avoir une posture un peu affaissée. Si on est penché longtemps sur l'ordinateur ou sur un bureau, notre tête va être propulsée vers l'avant. Ça va amener de la tension au niveau des cervicales. Le fait aussi de toujours être appuyé sur un bureau ou sur autre chose, ça va affaiblir les muscles profonds qui sont collés sur le squelette, puis ça va éventuellement amener des douleurs lombaires.
Alors, quels sont les avantages physiologiques d'améliorer sa démarche?
Oh, il y en a plusieurs. En fait, la première, je vous dirais que c'est la réduction des douleurs et des tensions musculaires. Donc, une démarche équilibrée, bien alignée, répartit mieux les forces et les pressions sur nos articulations. Ça peut prévenir les blessures également. Une meilleure posture, meilleure démarche va améliorer la circulation sanguine. Donc, lorsque nous marchons correctement, nos muscles agissent comme des pompes, donc aident le sang à circuler plus efficacement dans notre corps. Il y a aussi l'optimisation de notre respiration. Une posture droite, une démarche fluide, ça va ouvrir la cage thoracique, permettant une meilleure expansion des poumons. Et cela se traduit par une respiration qui est plus profonde, plus efficace, et ça augmente également le niveau d'énergie.
Et ça, c'est dans la marche au quotidien, aussi bien qu'en randonnée, qu'en aventure.
Peu importe où nous marchons, une bonne démarche va amener tous ces effets positifs-là, mais aussi une bonne posture assise, debout, ça va être un peu la même chose.
La bonne posture en général.
Oui, oui, exactement.
Alors, y a-t-il d'autres raisons d'améliorer sa démarche?
Oui, en fait, une bonne démarche nous permet de marcher plus vite. Donc, il y a plusieurs études, d'ailleurs, qui suggèrent qu'une marche rapide de 6 km/h environ, ça tourne autour de 100-130 pas minutes, apporte des bénéfices supplémentaires. Donc, il y a une étude en 2019 qui a trouvé que les marcheurs rapides vivent plus longtemps que les marcheurs lents.
Ah tiens, intéressant. Ouais.
Donc, ça réduit toute une gamme de conditions de santé importantes et ça nous permet également là, d'intégrer notre exercice quotidien dans le quotidien, donc dans nos trajets vers l'école, le travail, les magasins. Améliorer notre démarche signifie également que nous pouvons marcher pendant de plus longues périodes. Donc, il y a des études qui suggèrent que marcher plus longtemps va être bon pour réduire la graisse corporelle et améliorer l'humeur. Puis si on peut marcher longtemps, sans douleur, de façon confortable, bien, notre perspective de marche s'élargit également. Donc là, ça nous permet de faire des plus longues distances. Ça peut être des pèlerinages à pied, suivre un fleuve, ou simplement marcher sur une route que nous prenions en voiture auparavant.
Alors, si j'ai compris, il y a une espèce de joie de vivre qui s'installe lorsque l'on marche bien, que la posture est bonne.
Oui, quand on est confortable, que notre démarche, elle est naturelle, qu'elle suit les bons alignements, on va s'en sentir plus heureux, plus sûr de nous. Et tout ça, ça peut nous aider à réduire notre stress, nos préoccupations quotidiennes.
Alors, vous nous conseillez d'évaluer notre démarche et de réapprendre à marcher. Ça peut être tout un défi, j'imagine. On marche depuis tellement longtemps.
Oui, mais étrangement, bon, c'est mon opinion, mais je trouve que les enfants apprennent à marcher très bien. Puis c'est comme si on désapprend ou on déconstruit tout ça avec nos mauvaises habitudes. Donc, on peut le reprogrammer, réapprendre, juste en augmentant un peu notre conscience corporelle. Donc, de se questionner ou d'essayer de ressentir comment on se tient, comment on marche. Et on peut travailler là-dessus pour l'améliorer. D'ailleurs, dans notre prochaine chronique, je vais vous donner des petits trucs sur comment améliorer votre démarche. Donc là, on a parlé de l'importance d'améliorer la démarche, mais je vais vous donner des petits trucs sur comment y arriver.
Alors là, j'ai une question. J'améliore ma démarche, donc je marche plus rapidement et je marche plus longtemps.
Oui.
Et est-ce que je peux marcher plus lentement et moins longtemps, tout en gardant une bonne posture? En d'autres mots, est-ce qu'il faut absolument que la démarche soit correcte, la posture soit correcte, pour aller plus vite et plus longtemps?
C'est sûr qu'au début, de faire des correctifs, on ne pourra pas y aller dans la vitesse. Hein. Il faudra prendre un temps de recul, vraiment regarder comment le pied se dépose au sol. Est-ce que, par exemple, mes épaules sont au-dessus du bassin, au-dessus de mes pieds? Est-ce que la tête est projetée devant ou au-dessus des épaules? Donc, il faudra le faire un peu plus lentement pour augmenter le niveau de conscience, puis évaluer, faire une auto-évaluation. Mais éventuellement, on va essayer d'augmenter un peu la cadence parce que ça se fait un peu tout seul. Si on remarque que le pied se dépose, par exemple, si on remarque qu'on ne dépose pas bien les orteils au sol, bien le fait de prendre conscience puis de venir vraiment pousser avec les orteils dans le pas, nécessairement, le pas accélère sans même qu'on y pense parce que la dynamique est plus efficace. Donc, on peut le faire lentement, plus rapide. C'est à votre guise.
D'accord. Et j'en ai déjà parlé à l'émission, j'avais un petit problème au pied.
Oui.
À un moment donné.
Oui, vous m'en avez parlé.
Et puis, j'ai essayé toutes sortes de choses, des nouvelles chaussures, des massages de pieds, et tout ça, ça aidait. Par contre, le jour où j'ai consciemment changé ma posture, ma démarche, ça me semble avoir réglé le problème, ou presque.
Ah, ben tiens donc.
Oui, surprenant, n'est-ce pas?
Mais en fait, non, parce que en alignant les segments, puis là, on parle du pied, mais le problème pouvait, je ne sais pas c'était quoi dans ce cas-ci, mais des fois, c'est le bassin, des fois, c'est le fait qu'on est un peu trop voûté vers l'avant, puis là, ça nous propulse vers l'avant, le poids ne tombe pas de façon efficace sur le pied. Donc, il y a toutes sortes de raisons pourquoi la douleur pourrait s'installer au niveau du pied. Mais après, quand on prend le temps de bien aligner, corriger, ressentir, ça peut régler un paquet de maux, effectivement.
Oui. J'adore les anecdotes.
OK.
OK? Alors, je porte des verres. Et un jour, j'ai enlevé mes verres, mes lunettes, et j'ai changé ma démarche.
Intéressant.
Et savez-vous comment?
Non.
Aussitôt que, et même aujourd'hui maintenant, je porte mes verres, je marche, si j'enlève mes verres, ma tête se redresse. Mes épaules baissent.
OK.
C'est comme s'il y avait moins de stress. C'est peut-être les prismes qu'il y a dans mes lunettes où ma tête tend à jouer, s'ajuster à la vision que procurent mes lunettes. Mais aussitôt que je les remets, ma tête baisse, mes épaules deviennent plus tendues.
C'est intéressant,
n'est-ce pas?
Bien, les yeux, puis le réflexe oculomoteur, tout ça, ça... Premièrement, au niveau du cerveau, les yeux, c'est à l'arrière, au niveau de l'occiput. Mais il y a aussi des muscles verniers qui sont à la base du crâne qui vont travailler avec les yeux. Donc, je me demande s'il n'y a pas quelque chose là. Est-ce que c'est des verres progressifs?
Oui.
Ou c'est des... Ah, bien, il y a ça aussi, là.
C'est ce que je pense. Mm-hmm, oui, mm-hmm. Parce que la vision s'ajuste à en fait, l'objet qu'on regarde, bien sûr.
Oui.
Et si je regarde devant moi avec mes verres, les prismes dans les verres m'incitent à baisser la tête.
Oui, oui, oui.
Et ça a un impact sur Absolument. Les épaules et tout. Aussitôt, je les enlève. Tout ça pour dire qu'il y a des gestes très minimes
oui.
que l'on fait ou que l'on peut faire
oui.
pour changer notre posture.
Oui, absolument. Mais dans ce cas-ci, en fait, c'est juste le fait de bouger un peu la tête, un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. Puis ça va avoir un impact déjà sur les épaules. Le placement des épaules va avoir un impact sur le bassin, qui aura un oui. impact sur les pieds. Donc oui, puis on peut s'amuser à faire toutes sortes de petits tests comme ça. Là. Je peux exagérer le poids que je mets sur mes orteils quand je marche, ou même si je suis debout, puis on va ressentir toute une répercussion, là, une espèce de cascade à travers le corps qui va s'ajuster.
On apprend tellement de choses avec vous. Alors, la prochaine chronique.
Oui, donc la prochaine chronique, comme je vous disais, ce sera des conseils plutôt pratiques là, pour améliorer votre posture et conséquemment améliorer votre démarche. Mais je peux vous donner là, des petits conseils en
oui,
attendant.
Tiens, oui, oui.
Donc, le fait de se tenir droit avec la tête alignée au-dessus des épaules, donc d'éviter de se pencher vers le vent ou de s'affaisser. Lorsque vous marchez, essayez de poser le pied en commençant par le talon et en déroulant jusqu'aux orteils. Et pour vous aider, là, évitez les semelles rigides qui ne permettent pas le déroulé du pied et des orteils. Adoptez une cadence régulière et confortable. Donc, évitez les pas qui sont trop longs ou trop courts qui peuvent déséquilibrer la démarche. Vous pouvez également travailler à renforcer les muscles posturaux, notamment les abdominaux, les muscles du dos. Cela vous aidera à maintenir une posture stable et droite. Enfin, vous pouvez travailler votre flexibilité, notamment au niveau des chevilles et des hanches. Donc, des muscles et des articulations souples facilitent la démarche fluide et naturelle.
J'ai hâte déjà.
Essayez-le, votre corps vous en remerciera.
Et voilà, merci beaucoup Michel et à la prochaine.
À la prochaine Denis.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Comme toujours, nous espérons qu'il vous a plu. Merci beaucoup à nos invités Christine Angelard et Michel Cousinat-Baudet. Merci également à notre compagnon de route à la technique, Lysandre Duplay. Et bien sûr, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h, et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio-VM ou en différé sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs d'y trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de télécharger les épisodes choisis. Vous pouvez également y laisser suggestions et commentaires sur l'émission. Je vous laisse cette semaine avec une pensée de Bouddha. Il y a 4 pensées illimitées. L'amour, la compassion, la joie et l'égalité d'âme. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine!